Je suis Christian Lacombe et dans un brin d'histoire, j'aborde la richesse de notre patrimoine régional. Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous parler de la croisade contre l'hérésie cathare. Les événements dont je vais vous parler se situent du XIe au XIIIe siècle en Occitanie. L'Église est alors toute puissante dans l'Occident médiéval. Hors de l'Église, point de salut. La vie est dictée par les sacrements de l'Église, qui détient la seule vérité sur l'existence de notre monde. L'Église encadre toute la vie. Elle est le seul recours pour les malades et les nécessiteux. Elle rythme le temps par les cloches et le calendrier. Pourtant, après la peur de l'an 1000, la fin du monde annoncée, de nouvelles expériences spirituelles voient le jour. Certains groupes prônent une morale plus rigoureuse et exigent du clergé une attitude exemplaire. L'Église, qui affiche le plus en plus de richesses et aussi beaucoup d'excès de moralité, se voit contestée. Des mouvements critiquent les fastes du clergé catholique. Certains s'opposent au rite de la liturgie catholique, refusant les sacrements ou messes. Toute communauté échappant au contrôle de l'Église devient suspecte et ses membres vont être considérés comme des hérétiques. Ici, dans le Midi, ils prennent le nom d'albigeois, de bons hommes. Le terme de cathare n'a jamais été utilisé au Moyen Âge. C'est au XIXe siècle que le concept de catharisme est employé. En réalité, pour certains historiens du catharisme, ce serait une forme du christianisme. Ces derniers pratiqueraient des rituels particuliers, tels le consolamentum, seul sacrement d'extrême-onction, par l'imposition des mains. Tous veulent retourner à l'Église originelle des apôtres, telle que le Christ l'a enseignée. Le pape Innocent III est le représentant de Dieu sur terre, le vicaire du Christ. Il cherche à contrôler l'ensemble de la société chrétienne. Les archevêques et évêques dirigent les provinces et les diocèses, aidés par les prêtres, les abbés, les chanoines et les communautés. On parle de théocratie. Dans le Midi, les princes et les seigneurs s'affrontent pour la domination. Aussi, ils vont s'accuser mutuellement d'hérétiques auprès du pape. Ainsi, le grand rival du comte de Toulouse est Henri II Plantagenet, roi d'Angleterre et duc d'Aquitaine. Il accuse la ville de Toulouse pour être infestée par l'hérésie. Ces hérétiques sont parfois appelés de termes péjoratifs « patharins ». Les Trencavel sont désignés aussi comme des accusateurs. Cette tension méridionale prend fin vers 1200. Le comté de Toulouse est un vaste territoire, allant de la Garonne à la Provence, plus grand que l'Occitanie actuelle. Raymond est vassal du roi de France.
Quand eu a vos falsa clamor Desturs e desmoralavits Qui vivum faestet desenos Que dator duns et fieus salsits Vienen de bum saver volum Per la fudeu prime servi Per le conum
Le comte de Toulouse, Raymond VI, est un grand seigneur, prince politique et calculateur. Ses mariages successifs contribuent à augmenter son domaine et pacifier le Midi. Veuf, il se remarie en 1204 avec Éléonore, la sœur du roi Pierre II d'Aragon. La grande partie des seigneurs du Midi sont des vassaux de Raymond VI, ce qui expliquera ses soutiens politiques. Ce qui fait également l'unité occitane, c'est la langue, issue du latin. Elle se décline en une dizaine de dialectes de la Catalogne au Limousin, de l'Aquitaine au Piémont italien, en passant par le Midi toulousain. Selon les légats du pape, Toulouse serait infestée par l'hérésie. Nous allons parler maintenant de la croisade. En 1208, une rencontre est organisée entre le légat du pape, Pierre de Castelnau, et Raymond VI. Cette entrevue se passe mal. Les deux hommes se quittent sans accord. Sur le retour, le légat est assassiné. Le pape Innocent III appelle à la croisade. Les soldats de toute l'Europe viennent alors par la vallée du Rhône. Le roi de France, Philippe Auguste, reste prudent. C'est le légat pontifical, Arnaud Amalric, chef de l'ordre des Cisterciens, qui assure le commandement. En juillet 1209, Raymond se rallie. Alors, la croisade se dirige sur Béziers, possession des Trencavels. Ici, une partie de la population est massacrée. L'expression « Tuez-les tous, Dieu reconnaîtra les siens » est entrée dans l'histoire. En août 1209, c'est le siège de Carcassonne. Après 15 jours de siège, la ville se rend à Simon de Montfort. Ensuite, juin-juillet 1210, c'est la prise de Minerve. Ici, les croisés, après avoir affamé la ville, allument leur premier bûcher de plus d'une centaine de personnes. En août et novembre 1210, c'est le siège de Termes. En avril 1211, le comte de Toulouse est excommunié. On offre son territoire à quiconque peut s'en emparer. Montfort a ainsi les mains libres.
cor sagus meus, pur me tenus vos deprisum, vas diffidentem signius, che mors suffrite passium, or vos mande gestane meus, elagem sanguine tenum, mut liviunheit.
Puis la ville de Cabaret se rend. En mai 1211, c'est la prise de Lavaur. Le siège de Lavaur dure un mois et demi. Emery et ses chevaliers sont exécutés. Sa sœur, Dame Guiraude, est jetée au fond d'un puits. 400 personnes accusées d'hérésie sont brûlées. Nous avons relaté la vie de Dame Guiraude dans une précédente émission. Elle est considérée comme une martyre, grande résistante de la cause occitane. En juin 1211, c'est le premier siège de Toulouse, le 15 juin. Montfort s'installe sous les murs de Toulouse, mais n'est pas assez équipé pour en prendre possession. De plus, les Toulousains lancent des sorties dévastatrices. Le siège est alors levé. En septembre 1211, Simon de Montfort s'enferme à Castelnaudary. Puis, les croisés tentent alors une sortie et sont vainqueurs contre le comte de Foix. En printemps 1212, Montfort reçoit des renforts au printemps. Il prend les villes d'Opoule, de Penne, de Moissac et il établit un règlement interdisant aux barons des alliances non françaises. Mais en janvier 1213, l'échec des négociations avec Pierre d'Aragon oblige celui-ci à placer sous sa protection toutes les terres menacées par les croisés. Ainsi, le Midi se place sous la couronne d'Aragon, ce qui constitue alors un vaste royaume transpyrénéen.
Vos chevaliers sont restés dans la demeure, gardant précieusement l'or de nos aïeux. Ils chevauchent vaillant sur de nobles destriers, et le corps d'Olivier sonne en vallée de Roland. Ils dressent fièrement les bannières dans le ciel, ils partent au pays païen, loin sur la mer.
Mais le 13 septembre 1213 a lieu la bataille de Muret. Il s'agit de l'événement le plus important de la croisade. Malgré son infériorité numérique, Montfort enfonce la première ligne des croisés et la seconde, où le roi d'Aragon est tué. Alors, le sort de l'Occitanie se joue. Montfort sort vainqueur.
Chevauche vaillant sur de nobles destriers, et le corps d'Olivier sonne en vallée de Roland. Il lutte vaillamment dans la grande vallée sombre, fatigué, les hommes sont couverts de sang noir. Chevauche vaillant sur de nobles destriers, et le corps d'Olivier sonne en vallée de Roland.
Ensuite, 1214-1216, Simon de Montfort est comte de Toulouse. Il ne s'empare pas de suite de Toulouse. Il attend la reconnaissance du pape qui survient en 1215. Ceci après le quatrième concile de Latran. Du 7 mars 1216, celui-ci confirme les droits de Montfort sur le comté de Toulouse, le duché de Narbonne et les vicomtés de Trencavel.
Il lutte fête sans répit pendant 2 ou 3 journées. Les païens tombent tous devant le bras de Roland.
Ils chevauchent vaillant sur de nobles destriers, et le corps d'Olivier sonne en vallée de Roland.
Souffle au corps, son sang jaillit de sa bouche, la terre se soulève sous les sabots d'acier.
Il chevauche vaillant sur de nobles destriers, et le corps d'Olivier sonne en vallée de Roland.
Nous sommes maintenant en avril 1216. Le marquisat de Provence appartient toujours au fils de Raymond VI, Raymond VII, qu'on appelle en occitan Ramonet. Et en juin-août 1216, Beaucaire est une cité revendiquée par Simon de Montfort et aussi par Raymond VI de Toulouse. Les habitants ouvrent les portes au jeune prince de Toulouse et Montfort en fait le siège et échoue par 3 fois. Pendant ce temps, Toulouse se soulève, ouvre ses portes à Raymond VI qui va en assurer la défense. Alors Simon de Montfort revient assiéger Toulouse, fragilisé par la crue de la Garonne qui emporte côté Saint-Cyprien les fortifications de Blois. Mais le 25 juin 1218, Montfort est mortellement blessé, alors son fils Amaury VI abandonne et lève le siège peu après, le 25 juillet 1218. Nous possédons comme source les archives manuscrites de la chanson de la croisade contre les Albigeois, œuvre d'un Toulousain de 9582 alexandrin, Guillaume de Tudela, et aussi d'un anonyme. En juin 1219, en repartant, le prince Louis de France, futur Louis VIII, et Amaury de Montfort vont s'emparer de Marmande, entre Bordeaux et Agen. Ils y parviennent et massacrent la population.
Charles le Grand arrive, va trouvant les siens en sang, à leur côté Gisèle, noble Roland tombé. Ils chevauchent vaillant sur de nobles destriers, et le corps d'Olivier sonne en vallée de Roland.
En 1219, Toulouse est de nouveau assiégée, mais la cité résiste. Après 45 jours de siège, le prince Louis se retire. Selon la tradition, on remercie Saint-Exupère, protecteur de la ville, depuis le siège de 407 contre les Vandales. Après d'autres épisodes et opérations, Amaury de Montfort quitte l'Occitanie, abandonnant ses droits à Louis VIII. Le traité de Paris du 12 avril 1229, voit la soumission du comte Raymond VII devant la régente Blanche de Castille. Louis IX, futur Saint-Louis, est le légat du pape. Le texte prévoit qu'à sa mort, il devra donner en mariage Jeanne, sa fille, au frère du roi, Alphonse de Poitiers. Ainsi, le Midi reviendra à la couronne de France. Avec l'arrêt de la croisade, la lutte contre l'hérésie voit la mise en place du tribunal de l'Inquisition. Malgré des tentatives d'opposition au roi de France, la lutte se terminera par le siège de Montségur en mai 1244. De nombreux ouvrages et références relatent ces événements, mais je me suis appuyé sur la dernière exposition, Cathare, Toulouse dans la croisade. Magnifique pour sa qualité d'explication et l'importance en éléments d'origine, documents, armes, sceaux, sculptures, etc. Réalisé à Toulouse sur le lieu des musées Saint-Raymond et le musée de l'archéologie de Toulouse au couvent des Jacobins. Je vous remercie et à la prochaine émission.
Les chevaliers sont restés dans la demeure, car gardant précieusement l'or de nos aïeux. Il chevauche vaillant sur de nobles destriers,
et le corps d'Olivier sonne en vallée de Roland.
Il dresse fièrement les bannières dans le ciel, ils partent au pays païen loin sur la mer.
Chevauche vaillant sur de nobles destriers, et le corps d'Olivier sonne en vallée de Roland.
Il lutte vaillamment dans la grande vallée sombre, fatigué les hommes sont couverts de sang noir.
Chevauche vaillant sur de nobles destriers, et le corps d'Olivier sonne en vallée de Roland.
Il lutte sans répit pendant deux ou trois journées, les païens tombent tous devant le bras de Roland.
Il chevauche vaillant sur de nobles destriers, et le corps d'Olivier sonne en vallée de Roland.
Souffle au corps, son sang jaillit de sa bouche, la terre se soulève sous les sabots d'acier.
Il chevauche vaillant sur de nobles destriers, et le corps d'Olivier sonne en vallée de Roland. Charles le Grand arrive, trouvant les siens en sang, à leur côté gisait le noble Roland tombé. Chevauche vaillant sur de nobles destriers, et le corps d'Olivier sonne en vallée de Roland.
Retrouvons-nous pour un autre brin d'histoire sur Radio Galaxie 98.5 FM.